Alors, on continue. Bonjour. On est au quatrième Pérec, la quatrième Mishnah au milieu. Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Rabbi Yochanan, le fils de Broka, il a dit: Kol ha-machalel shem shamayim baseter, nifraim imenu bagalui. Chacun qui profane le nom de Dieu, baseter en cachette, nifraim imenu bagalui, on va lui faire encaisser le péché en public. Echad shogeg, echad mezid, vechilul Hashem. Soit que l'homme il fait le péché beshogeg, sans faire exprès, echad mezid, soit il le fait exprès, c'est la même chose. Contre le péché chilul Hashem, il n'y a pas de différence. Ça veut dire quoi? Tous les péchés du monde, il y a bien une différence, c'est pas la même gravité si on l'a fait exprès ou on l'a pas fait exprès. Maintenant, le Tanna nous dit, ça c'est pour tous les Averot. Bien sûr, c'est pas la même gravité. Si tu l'as fait, la chose est échappée, tu as oublié, on n'a pas voulu le faire, ou on l'a fait de plein gré. Mais Chilul Hashem, c'est spécial. C'est une autre sorte de péché. Profaner le nom de Dieu, il faut faire beaucoup plus attention. Pas seulement que tu ne le fais pas, mais le shogeg, il faut faire très attention que, sans faire exprès aussi, que ça n'arrive pas. Parce que c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. C'est quoi chilul Hashem? Ça veut dire quoi chilul? Ça vient du mot halal. Halal veut dire quoi? Un espace vide. Chalal veut dire aussi un cadavre qui est matzé chalal ba'adama. Un cadavre vide, ça veut dire vidé de sa neshama, vidé de ce qui est divin. Un homme, il est créé par la terre. Vayipar ba'apnav nishmat chayim, et Dieu, il a soufflé en lui une âme de vie. Chayim veut dire la vie éternelle, la vie du monde futur. Une neshama qui veut vivre éternellement, et c'est Nishmat Chaim, Dieu il a soufflé dans le corps de l'homme. Si maintenant un homme il est assassiné, il y a le corps, mais la substance éternelle est vidée. Ça c'est un homme halal. C'est un espace vide, et on dit aussi halal, c'est profané. Profane, il y a chol, kodesh, et chol, hamavdim ben kodesh le chol. Il y a halal. Chol, ça veut dire, c'est pas kodesh, mais il y a des particules de kdusha dedans. Dans le chol, la semaine aussi, un peu de kdusha. Pas la kdusha de Shabbat, c'est chol, mais il y a quand même des choses de kdusha dedans. Mais halal, c'est entièrement vidé. Maintenant, il y a chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Profane, c'est rien. C'est quoi un chilul Hashem? C'est une attitude que Dieu, il est rien qu'il ou pour l'homme. Il ne donne pas à Dieu une importance. Alors ça veut dire quoi? Il donne pas de l'importance. Comment il donne pas de l'importance? Il y a mille et une possibilités de faire un chilul Hashem, ou le contraire, un kiddush Hashem. C'est quoi kiddush Hashem? Dieu est important. Dieu et sa religion et ses paroles et sa volonté et sa Torah, c'est important. Et Chilul, c'est vider que Veyachol, la émouna en Dieu, la connaissance en Dieu, la religion de Dieu, les lois de Dieu, les vider de leur essence, ils ne sont pas importants. Et pour faire un Kiddush Hashem ou pour faire un Chilul Hashem, il y a mille et une possibilités. C'est pas comme une autre mitzvah ou comme une autre avéra que les définitions sont plus ou moins claires. Les tefillines, ils sont ou kachères ou pas kachères. Il y a des halakhot dessus. Chazir, c'est clair. Kachère ou pas kachère. Il y a des halakhot, ça c'est kachère, c'est pas kachère. Deux fois, il y a un peu plus kachère, deux fois moins kachère, gravement pas kachère, moitié pas kachère. Mais plus ou moins kasher ou pas kasher. Chilul Hashem et Kiddush Hashem, c'est spécial. Il y a tellement beaucoup de possibilités. C'est une attitude. Est-ce que ton comportement, est-ce que tes paroles, il envoie des messages de Kiddush Hashem ou des messages de Chilul Hashem? Et si ça envoie des messages de Chilul Hashem, tu ne considères pas Dieu comme important. On ne considère pas les mitzvot comme important. Dès que les gens le remarquent, eh ben, ils sont influencés. Ce monsieur-là, en fin de compte, c'est pas important pour lui, Dieu. Ça, c'est Chilul Hashem. Et le Tanne nous dit, Kol ha-machel shem shamayim, ce qui fait un Chilul Hashem en cachette. Il se dit, bon, en cachette, j'influence personne. Mieux vaut faire un Chilul Hashem en cachette que de faire un Chilul Hashem en public. Évidemment, la Gemara nous dit, un homme qui a un Yetzara de folie veut faire un Avera, il n'arrive pas à se dominer. Impossible, il a tout essayé, il n'arrive pas. Alors, au moins, s'il fait l'Avera, qu'il a fait son Chilul Hashem. La Gemara nous dit qu'il aille dans une ville où personne ne le connaît et qu'il se déguise, qu'on ne voit pas que c'est un juif, en tout cas pas un juif important, qu'il se fait comme le dernier des derniers, et qu'il fait l'Avera, au moins il n'a pas profané le nom de Dieu. Badaï, Machalel, Befahesia, en public, offenser Dieu en public devant les gens, c'est pire qu'en cachette. Mais le Tanne nous dit ici, ne crois pas que si tu fais en cachette, que forcément que tu es sorti de l'auberge. Même si tu l'as fait en cachette, mais ni Nifraïm, à un moment, les choses vont être dévoilées. Alors, qu'est-ce que c'est Chilul Hashem Basseter? C'est-à-dire quoi en cachette? Il méprise Dieu en cachette. Personne ne le voit. En vérité, lui méprise. Comment il méprise? Qu'il fait un Avera. Alors, chaque Avera, c'est un Chilul Hashem? D'une certaine manière, oui. Chaque Avera, ça veut dire il y a une négligence. Ça veut dire, dans le fond, chaque Avera en cachette, c'est un Chilul Hashem. Mais le Rambam, quand il retire sur des Torah, il définit un peu plus. Il y a un Avera qu'un homme y fait parce qu'il a un grand Yetzarara. Mais il y a un avéra que l'homme fait, il n'a pas de Yetzirah. Il le fait parce qu'il méprise la chose. Ça, c'est le Chilul Hashem, le mépris. Un homme qui dit, je veux faire la Torah, c'est très important pour moi, mais le Yetzirah, il est plus fort maintenant. Alors, ça, c'est pas le Chilul. Ça, c'est pas un Chilul Hashem. C'est le Chilul Hashem, c'est le Yetzirah t'oblige pas et on méprise. Un homme qui méprise ça en cachette, il dit, bon, d'accord, pour moi, je m'en fiche de la religion. Mais en public, je fais quand même attention pour l'honneur de Dieu. Je ne vais pas affaiblir les gens. C'est déjà mieux. C'est déjà bien qu'il ne vienne pas Chilul Hashem en public. Mais le Chacham ici, Rabbi Yochanan Baruch Hu, il dit, sache, à la fin, ça se passe comme ça. Ça ne passera pas comme ça. Kol Halel Shem Shamayim, Baseter, si tu vas t'habituer à faire basseter, seulement tu fais attention de ne pas faire en public, mais nifraimenu. Dieu, à la fin, il va punir. Et quand la punition arrive, elle sera begaloui. Ça veut dire quoi? Les gens, ils vont voir qu'il est puni. Bon. Mais le fait que les gens, ils voient qu'il est puni, il y aura quoi? Il y aura Chilul Hashem dedans. Pourquoi il y aura Chilul Hashem? Parce que lui, il joue le tzaddik. En public, il fait toujours attention, très respectueux de la Torah. Mais en cachette, en vérité, non. Quand il est puni, qu'est-ce que les gens ils disent? Mais c'est un homme très bien. Et Dieu, il a puni comme ça. Un homme qui respecte toute la Torah, il est puni. Ça, c'est un Chilul Hashem. Parce que ça affaiblit les gens. Parce que les gens, ils disent, à quoi ça sert d'être religieux? Après, on va. Que Dieu, il est puni tellement. Alors, si un homme n'a pas provoqué cette punition, mais Minashamayim, il y a des calculs pourquoi, Chas v'Shalom, un homme, il est puni. Pas pour lui, pour notre Gilgoul, des choses indépendantes de lui. C'est honnête. Cas des forces majeures. Cas des forces majeures, l'autre homme n'est pas responsable. Si un Chilul Hashem, cas des forces majeures, c'est pas l'affaire de l'homme. Mais quand c'est pas un cas des forces majeures, tu as huit ta responsabilité dedans. Ben Beshogeg, Ben Bemizit, mais tu es responsable. Eh bien, au ciel, on va être en Makpid. Tu n'as pas fait attention de ne pas faire un Chiloul Hashem. Et pas seulement une punition à titre de punition des fois. Niphraïn, on va lui faire payer en public, ça veut dire il aura honte en public. Et les gens, ils vont savoir que ce qui lui arrive en vérité, c'est parce qu'il n'a pas fait la Torah. Il y a une histoire connue dans l'époque des Rishonim. Une histoire, il peut y avoir beaucoup d'histoires de ce genre. Une histoire, il est connu, qui est écrit avec quelqu'un qui a, je ne sais pas si c'était Tisha B'Av ou si c'était Yom Kippour, il a mangé. Toujours super religieux, mais Yom Kippour ou Tisha B'Av, il mangeait à la maison. Or, il y avait une histoire qu'il a mangé et la maison s'écroulait. Tremblement de terre ou je ne sais pas quoi. Bon, tout le monde est venu, il faut sauver les gens sous les décombres. Ils ont enlevé les pierres. Et ils ont trouvé le monsieur. Mais quand ils l'ont trouvé, ils ont vu quelque chose d'intéressant. Il avait du pain dans la bouche. Il n'arrivait pas. La maison s'écroulait. Il n'avait même pas le temps d'avaler. Le pain, il était dans la bouche. Et les gens, ils étaient choqués. Aujourd'hui, le jour de Ta'anit. Et monsieur, il a mangé. Ah, ça se dévoilait. La Mishnah était mitkayem. Nifraïm emen ou begaloui. Mais il y a beaucoup de situations comme ça. Un homme, il joue le tzaddik à l'extérieur et en cachette, il transgresse. Il est mechalel, shem shamayim. Et il se dit, bon, les gens, ils vont jamais savoir. Un jour, on va savoir. Nifrem menou, begaloui. Et tu vas dire, mais j'ai pas cherché ça. Ça, c'est beshogeg. C'est vrai, le chiloul Hashem, il a fait beshogeg. Mais echad shogeg, echad mezid, bechiloul Hashem. Alors, qu'est-ce que c'est chiloul Hashem? C'est tout comportement d'un homme où il envoie des messages directs et indirects, voulu ou pas voulu, que Dieu ne lui joue pas un rôle, pas un grand rôle dans sa vie. La religion n'est pas, c'est pas sa cam. Ça, c'est le chiloul Hashem. Comment ça se présente? Ça se présente, soit qu'on fait une vraie avéra. Soit qu'une demi-avéra, soit un comportement qui n'est pas bien. Il ne se comporte pas bien avec les gens. Bon, il ne se comporte pas bien. Bon, il y a des gens mal élevés. Il y a des gens qui sont mal élevés. Mais qu'est-ce qu'il se passe si un homme, il porte le nom de la Torah sur lui? Un homme qui a la Torah, qui étudie la Torah, qui enseigne la Torah, qui est la référence de Torah, que les gens, ou les gens, ils le prennent parce qu'il a un look d'un religieux, d'un rabbin, d'un enseignant, d'un érudit. Il a le look d'un érudit, ou peut-être il est même érudit, d'une certaine manière, mais il se comporte mal. Il vole, il triche, il s'énerve, il donne pas l'impression d'être un homme bien éduqué. Mais les gens, ils savent qu'il était éduqué dans la Torah, par la Torah. Qu'est-ce que les gens, ils vont dire? Ah, on ne voit pas que la religion fait des gens bien. Sans religion, on est un abruti. Et avec la religion, on est le même abruti. Alors, à quoi ça sert la religion? À quoi ça sert de faire la Torah? Ça ne sert à rien. Donc, moi je ne vais pas m'intéresser à la religion. Ça, c'est un chiloul Hashem, comme ça dit la Gemara. Kara, veshana, veshim yishtamid hachamim, vein masa'u matano be'emuna, vein masa'u matano benachat im abriot, ma abriot omrot, oi lo la rabo shelim do Torah, oi lo la aviv shelim do Torah, ru ploni, kama mekul kalim ma'asav. Un homme qui a appris Torah, et il se comporte mal honnête, et les gens, ils sont choqué, ça c'est un chiloul Hashem. Alors, comment on peut s'en sortir de ce chiloul Hashem? Il y a deux possibilités. Soit qu'il se comporte bien, soit qu'il ne fait pas un look d'un homme de Torah, qu'il parle pas de Torah. S'il a étudié, mais il vole, eh bien qu'il raconte à personne qu'il a étudié. Eh bien qu'il donne pas le look d'un homme qui est Tamid Chacham. S'il est Tamid Chacham, mais il se comporte mal. Qui raconte pas, que personne sache. Au moins, comme ça, il n'y aura pas de Chilul Hashem. Des fois, c'est oui bien qu'un homme il a un look de religieux parce que ça va le protéger. Si tu as un look de religieux, tu ne peux pas te comporter comme un abruti. Donc, ça protège. Alors, dans ce cas-là, c'est très bien. Un look de religion, de religieux, si ce look, il te protège, oui, c'est une justification. Un long barbe et un grand chapeau, des titios d'or, et grâce à ça, ça t'empêche de faire des avérotes, oui, c'est justifié. Mais si on fait 8 avérotes, alors les gens, ils vont dire, alors à quoi ça sert la religion? Des fois, là, des fois, les habits font comme ça, ça empêche la moitié d'avérotes, la moitié non. Dans ce cas-là, ça se discute. Est-ce que ça vaut la peine qu'ils le mettent ou pas? D'un côté, ça le protège d'avérotes, des grandes avérotes. De l'autre côté, c'est un peu un Chilul Hashem. Et alors, quoi faire? Question. Maintenant, il existe aussi Chilul Hashem, comme la Gemara dit dans Maseret Yuma, à la fin de Maseret Yuma, un homme, il ne fait pas d'avéra. Il n'y a aucun avéra. Mais quand même, les gens, étant donné qu'il est très considéré comme un Chacham, il dit, si lui se comporte comme ça, c'est quand même, c'est pas si grave. La Gemara nous raconte, il y avait un grand rave. Il a dit, si moi j'achète chez le boucher de la viande et je demande un crédit, et c'est une ville où les bouchers n'osaient pas de demander aux gens qui avaient un crédit de rembourser. C'est un Chilul Hashem. Parce que le jour qu'il doit rembourser l'argent, et il oublie, il ne rembourse pas, le boucher va penser, ah, il ne m'a pas remboursé. Chez nous, dans la ville, on ne réclame pas. Il sait que je ne le réclame pas. Ça ne se fait pas. On aime la mitzroute, les gens. Et lui, il fait semblant, il a oublié. Ah, il a emprunté pour oublier. Ou il a emprunté, il n'avait pas d'argent, mais il oublie ses dettes. Donc, ce n'est pas si grave de voler. Alors, si c'est un grand chacham qui se comporte de la sorte, alors le grand chacham, l'argent, l'on est été, ce n'est pas si grave. Alors, le boucher, il dit, si pour le grand rave, ce n'est pas si grave. Alors, pour moi aussi, ce n'est pas si grave. Et moi, dans ma vie, pas seulement j'oublie de rembourser mes dettes, mais je ferai les mergouilles depuis le début. Donc, ce rave, il a fait un Chilul Hashem, il a influencé. Et ça c'est, en vérité, c'est une des choses très profondes qui répond, malheureusement, à beaucoup de questions. Des fois, il arrive à ce shalom des choses mal, au tzadikim, au chachamim, à des gens bien. Des fois, il arrive des choses terribles, malheureusement. Et les gens, ils se disent, mais il est tzaddik, ce monsieur. Et pourquoi Hachem lui fait ça? Alors, on peut dire qu'Hachem, il sait. C'est dans Hachem, il sait. Mais il y a des simples personnes qui ne savent pas qu'Hachem, il sait. Ils se disent, Hachem, il s'en fout de ses amis. Mais malheureusement, c'est possible que des fois, un homme, il est tzaddik jusqu'au Chilul Hashem. Jusqu'au Chilul Hashem. Mais en vérité, il ne fait pas attention sur son comportement, comment les gens... il le prennent et il fait un Chilul Hashem. Il ne fait pas attention, il ne remarque pas que les gens apprennent de lui le contraire. Apprennent parce qu'il y a quelque chose chez lui, il ne fait pas attention. Non, si tu es ça, tu ne peux pas te comporter. Et en vérité, chaque juif est comme ça dans cet état. Un juif n'est pas un non-juif. Tu es juif, tu as une responsabilité de te comporter digne. On est le peuple choisi par Dieu. Eh bien, ça nous oblige, noblesse oblige, ça nous oblige de se comporter comme il faut. Un juif qui ne se comporte pas bien, que ce sera un juif entre les juifs, ou que ce sera un juif vis-à-vis d'un non-juif, c'est un Chilul Hashem. C'est un prof, et c'est très grave, comme il est marqué dans Rashi, dans Parashat Ki Tetzé. Even Shelema Vatzedek Yelach. Quand tu fais du business, ne triche pas. Il est marqué Eifa Tzedek, Eifa Ketana, Liyabar Kisra, Eifa Ketana, Eifa Kedola. Il ne faut pas qu'avoir deux poids, deux mesures. C'est une façon comme on triche dans le business. Et tout de suite après, il est marqué Zachor et Asher Asalacha Amalek. Rappelle-toi ce qu'Amalek, il te fait, il t'a attaqué. Rashi rapporte déjà la Gemara. Mais quel rapport avec l'honnêteté du business, avec le fait d'Amalek, il est venu? Rachid dit, Amalek ne vient que si chez les Juifs, il y a de la malhonnêteté dans le business. Quel est le pshat? Parce que c'est péché. Manger chazir aussi, c'est un péché. Mais on nous a pas dit qu'Amalek ne vient que si les Juifs mangent chazir. On nous a dit qu'Amalek ne vient que s'il y a des mal, on était dans le business. Mais quel rapport avec la choucroute? C'est parce que le goy, dans le fond, si les Juifs ils mangent kasher ou pas kasher, bon, alors ça ne touche pas le goy. Le goy va dire, ah, les Juifs ne respectent pas sa religion. Les Juifs ne respectent pas sa religion. Ça, si Chas V'Shalom, un Juif, il achète chazir, le goy va dire, ah ben, il n'est pas religieux, ce Juif. Bon, il n'est pas religieux, ce Juif. Mais si les Juifs, ils volent le non-Juif, il va dire, il m'a volé, mais il m'énerve ce type-là. En quoi? C'est un Juif? Ah, ce Juif-là que Dieu lui a donné la Torah, la religion, et lui m'a volé. Ah là là, ça, il pardonne pas. Ça, il pardonne pas. C'est ça qui l'énerve. C'est pour ça, Chas V'Shalom, quand il y a antisémitisme, il y a deux sortes d'antisémitisme. Il y a un antisémitisme qui est mina shamayim. Il y a un antisémitisme qui est provoqué. Et cette provocation, elle vient de deux côtés. Elle vient de, ça peut être de la méchanceté du goy. Et cette méchanceté du goy, elle est réveillée à ce shalom quand il y a une trahana contre les juifs. Quand il voit que les juifs lui a volé et ça lui fait mal, ça, il ne pardonne pas. Donc, quand il y a antisémitisme dans le monde, il faut vérifier. Il faut que les Juifs ils font une introspection. Qu'est-ce qu'il se passe? En quoi? Dans quel sujet? Premier sujet. Voilà, bon, l'entêté dans l'argent. C'est le premier sujet. On dit que Rav Eliashiv, il a dit comme ça que aujourd'hui, Mashiach, il n'est pas venu. Je ne sais pas dans quel noussach il a dit, je n'étais pas à côté, mais à peu près il a dit cette idée. La partie des Juifs qui font la Torah en mitzvot, si, quelle est leur partie, si jamais il y a un parti que Mashiach n'est pas venu, en quoi eux ils participent? Il a dit, ce qu'il faut vérifier, si quelqu'un fait la Torah, bien, il faut vérifier l'argent. Il a dit, l'argent. Là, il y a... Bon, lui, il était Dayan, lui, il était Gadol Ador, il savait ce qui se passe au-dessus du peuple juif et en dessous et en milieu, il savait qu'est-ce qui se passe. Il savait beaucoup de choses. Alors ça, c'est Chilul Hashem. Rabbi Ishmael, donc, si on dit Chilul Hashem, c'est tellement grave, donc le contraire, c'est Kiddush Hashem. C'est quoi Kiddush Hashem? C'est que l'homme... Il respecte Bémet, oui, la Torah, et il envoie des messages qu'on voit, oui, que c'est important pour lui. La Rambam dit, quand un homme, il garde la Torah, malgré qu'il est sous une immense pression, ça c'est Kiddush Hashem. Il dit, il y a Kiddush Hashem en cachette, et il y a Kiddush Hashem en public. La Rambam, il dit, Yosef HaTzadik, la femme Goya lui a demander de pécher, il avait un immense yetzarara, et il n'a pas fauté, il a résisté. Rambam dit, ça c'est Kiddush Hashem. Dieu, la volonté de Dieu, elle est au-dessus de toutes les considérations. Malgré que l'yetzarara est terrible, et la madame Potiphar, elle a dit, je vais te mettre à la prison, et je vais te frapper, et je vais te déshonorer, je vais te obliger de faire. Il a dit, non, non, c'est Adavar Hazé, Khatat Ilelukim, je ne peux pas fouter contre Dieu. Rambam me dit, ça c'est Kiddush Hashem. Et ce Kiddush Hashem, il a fait en cachette. Il n'y avait qu'une personne en face de lui. Une fois, il a fait un Kiddush Hashem. Mais un homme, il fait un Kiddush Hashem en cachette. À Keshbohu, il va lui payer en public. À la fin, le monde entier savait. Yosef HaTzadik, il s'appelle jusqu'à aujourd'hui Yosef HaTzadik pour ce qu'il a fait. Lui, il ne savait pas que ce sera écrit dans la Torah qu'il était plus fort que son Etzerara. Il ne savait pas que lui, il sera la référence de la Kedusha, l'Olam Vaed. Lui, il a fait maintenant seul en Égypte, dans le pays le plus immoral qui existe, où c'est tout à fait normal de ce que cette femme propose. Pour eux, c'était normal. Moi, je suis juif. Il n'y a pas de question. Ça ne me monte pas la tête. Ça, c'est un Kiddush Hashem. Kiddushim en cachette, et aussi Kiddushim, bien sûr, en public, quand un homme il est prêt à donner toute sa vie même pour Dieu. C'est la mitzvah de Kiddushim, tous les gens qui sont morts à Kiddushim, qui se sont fait torturer à Kiddushim, toutes les histoires des Chachamim et des simples juifs et dans toutes les générations, c'est Kiddushim. Kiddush, c'est le contraire de Chilul. Chilul, c'est vider de l'essence. Et Kiddush, c'est rempli, c'est la Kiddusha, c'est la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu. C'est tellement important pour moi, je suis prêt à tout perdre pour l'honneur d'Hachem. Ça, c'est Kiddush Hachem. Rabbi Ishmael, Beno Omer, Rabbi Ishmael, son fils, le fils de qui? Rabbi Yochanan Broka. Donc, il y a ici un Chacham Yochanan Broka, il a un fils aussi, Chacham. Rabbi Ishmael, Beno, c'est Rabbi Yochanan Broka. Qu'est-ce qu'il lui dit à la monnaie? Almanat le Lamed. Ce qui étudie, et le but de lui, c'est Almenat le Lamed. Il veut enseigner. J'étudie, et tout mon savoir, je vais l'enseigner. C'est j'étudie la théorie, et j'enseigne la théorie. Comme ça, les gens, ils savent, ils connaissent la Torah. Et bien, Maspikim Biyado, l'Ilmod ou le Lamed. Le ciel va lui aider. Tu vas t'osorer, étudier. Tu veux enseigner aussi, Dieu va aider. Que tu pourras enseigner. Va'alomed almenat la asot. Mais celui qui n'enseigne pas seulement pour que ça reste en théorie, c'est il veut la asot. Il veut lui-même l'appliquer. Il veut que les autres appliquent ce qu'il enseigne. Il veut enseigner, mais il veut que les choses soient appliquées. Maspikin beyado l'ilmod ou le lamed, l'ishmor ben asot. Et bien Dieu lui aidera de pouvoir apprendre et d'enseigner, et d'appliquer. On dirait que Dieu aide selon tes aspirations. Si tu as des petites aspirations, Dieu te les remplit. Si tu as des grandes aspirations, eh bien Dieu t'aidera. Plus que tu as des aspirations, plus Dieu t'aide. Ça veut dire quoi? Il veut appliquer. Comment il faut traduire ici? Almenomed, almenat la asot. Ce qui étudie pour faire. Est-ce que faire lui-même faire ou faire que les autres ils fassent. Alors, on peut traduire de deux façons. On peut dire, il apprend la Torah avec l'intention que je l'enseigne et pas seulement que je l'enseigne pour que les gens y savent. Je voudrais que les gens passent à la pratique. Je voudrais leur enseigner et après aller pratiquer. Oui, je vous enseigne comment on fait des tefillin, comment on fait des tzitzit. Et maintenant, je vais veiller vraiment vous faites les tzitzit, mais vraiment vous faites les mitzvot. Alors, si l'homme il veut veiller que ce sera pratiqué, Dieu lui aidera, qu'ébémet les gens ils vont le pratiquer. Parce que toi tu veux, Dieu va t'aider, l'ishmo va l'assot. Ou le pshat l'assot c'est lui-même. Un homme qui étudie et il ne veut pas seulement connaître, il veut appliquer, Dieu lui aide qui pourra enseigner et appliquer. Pourquoi enseigner? Quel rapport? L'Ichora. Alors, menad menad le lamed, ce qui apprend pour enseigner, on lui aide d'étudier et d'enseigner. Alors, menad et ce qui étudie, on la saute pour pratiquer. C'est-à-dire, lui apprend et il veut pratiquer. Maspikin beyado, on lui aide qu'il pourra l'ilmod ou le lamed, l'ishmor vela saute. Quel est l'obshat? Mais il n'a pas parlé d'enseigner. Il a parlé, il veut apprendre, il veut appliquer. Soit c'est un sous-entendu qui veut étudier, il veut aussi enseigner et en plus appliquer. Soit le pshat il est que pour qu'un homme il applique la Torah, il ne peut pas appliquer la Torah s'il n'enseigne pas aux autres. Parce qu'un homme ne peut pas faire tout seul la Torah. Tu peux étudier tout seul. Tu es haram, tu prends la Gemara, tu peux apprendre la chasse. Mais pour le pratiquer, il te faut des gens qui t'aident. Tu ne peux pas faire tout seul. Tu vas faire des tefillin tout seul. On ne peut pas faire des tefillin tout seul. Il faut que tu achètes du parchemin. Il faut que d'autres qui préparent la peau, qui préparent. Donc, il y a la pratique. Tu veux prier à Béminyan. Avec prier à Béminyan, alors il faut un Minyan. Alors, il faut un Bet Knesset. Alors, il faut que les autres aussi viennent en Minyan. Alors, il faut leur enseigner de venir en Minyan. Si tu veux appliquer ta Torah, forcément, tu es obligé d'avoir un tzibour. Monsieur Tzibour ne va pas t'aider que si tu le renseignes. Donc, dans le lassot de soi-même, il se trouve automatiquement un besoin d'enseigner. Donc, c'est ça que l'Éternel dit. Et si tu veux appliquer, eh bien, Maspikim Beyodon t'aidera, l'ilmod, ou le lamet, tu pourras enseigner aux autres aussi, afin que les autres, ils t'aideront, Ishmor Valasot, pour pouvoir l'appliquer. Rabbi Tzadok Omer. Rabbi Tzadok, il dit, Al ta'asem atara lihitgadel bahem. N'utilise pas la Torah comme atara, comme couronne, pour te grandir avec. Qui c'est Rabbi Tzadok? Rabbi Tzadok, c'est un homme spécial. Un chassid, et lui, il était très, très détaché de ce monde, dans tout. Il jeûnait pendant 40 ans, c'est-à-dire la journée, il ne mangeait pas toute la journée, jusqu'à le soir, il mangeait un peu pendant 40 ans pour que le Beth Amikdash ne sera pas détruit. Et après, quand Korban il est venu, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai était avec Vespasien, il a demandé au rabbin, vous avez le droit de recevoir trois cadeaux. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, un des trois cadeaux que je voudrais de vous, c'est qu'envoyez-moi un médecin de Rome qui peut guérir Rabbi Tzadok. Parce qu'il était tellement maigre, il ne pouvait plus rien manger. Quelque chose qu'il a mangé, il prenait le soir, il prenait une figue et il a sucé un peu le jus, c'est tout. Et il était tellement maigre, un squelette, il restait que les os et la peau. Et il a jeûné 40 ans. C'est un chassid, ça c'était le copain de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il essayait de sauver le peuple juif, un homme avec ses ta'aniot. Presque il aurait réussi. Bon, il n'a pas réussi, parce que la Averot, ils étaient encore plus forts que son tzidkout. Lui, cet homme-là, détaché de ce monde, il a dit, Al ta'asem atara l'itgadel bahem. N'utilise pas la Torah comme couronne pour te grandir. Grandir. Ici, il ne parle pas vis-à-vis de manger, pas manger. Il parle vis-à-vis de l'honneur et pas honneur. C'est-à-dire, il savait, l'homme, par nature, il cherche de l'honneur. Un homme, il peut recevoir de l'honneur, pas beaucoup de possibilités. On peut être de l'honneur parce qu'on est riche, parce qu'on est beau, parce qu'on est réussi, parce qu'on épate les gens, parce qu'on est sage, mais aussi par la Torah. On a la Torah, et bien ça donne aussi du kavod. Lui, il a dit, il faut pas l'utiliser. Il faut pas utiliser la Torah pour ton kavod. Velo kardom, lach pour bahem. Mais fais pas la Torah comme pioche pour labourer. Avec une pioche, on laboure. Ça veut dire quoi? Tu veux semer, tu veux pousser, tu veux récolter, tu as quoi à manger. Bon, pour tout ça, il faut une pioche, il faut une pelle au début pour labourer la terre. Alors un homme, tu veux étudier. Pourquoi tu étudies? Tu vas creuser, tu vas semer, tu vas faire récolter. Qu'est-ce que tu veux récolter à la fin? De l'honneur. Moi, je veux récolter de l'honneur. Dommage. L'okardom, l'achpor bahem. Ne fais pas la Torah, n'utilise pas la Torah pour t'honorer. Le kachaya Hillel Omer. Hillel, il a dit ça. On avait dit dans le premier péri qu'on a vu, dit shtamash betaga chalaf. Celui qui utilise la couronne de Dieu, chalaf, il quitte le monde. Hillel, il dit ça dans le premier péri, que ça c'était deux, trois générations avant. Hillel, il y avait un élève, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Après Rabbi Yochanan ben Zakkai, le copain, donc une génération avant, il a entendu ça peut-être de Hillel aussi. Il ne faut pas utiliser les paroles de la Torah pour son kavod. À la Madeta, tu apprends, Kol hanehen evidivrei Torah, notel chayavin olam, ceux qui profitent des paroles de la Torah enlèvent sa vie du monde. Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit de kiffer d'avoir de l'honneur. Alors quoi? Il faut que l'homme sera malach. Peut-être. Peut-être c'est pas difficile d'être malach, peut-être c'est facile d'être un malach. Mais le maasé, l'halakha, il dit que quoi? Si un homme il a besoin de s'encourager d'étudier, un homme il a besoin de s'encourager d'appliquer la Torah, et souvent c'est difficile de faire la Torah, et que faire pour Dieu? J'arrive pas. Mais si j'ai un bénéfice quelque part, ou de l'argent, ou de l'honneur, les gens ils me disent tu es super bien, psh, tu nous plais, alors ça m'encourage, on a le droit de l'utiliser. Si l'honneur, c'est pour s'encourager, on a le droit. La halakha, il dit, l'olam, il m'a d'adam, ou yasok ba mitzvot, shelo lishma, shemetoch shelo lishma, ba lishma. On a le droit de l'utiliser pour s'encourager. Mais la vraie valeur, c'est si après, on peut arriver à Madriga, on n'a plus besoin de ça. Mais c'est, Si on peut éviter de profiter de la Torah, il faut le faire. Il y a une histoire dans Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon est un homme riche, mais il avait des gens qui travaillaient pour lui. Il avait des gens qui travaillaient pour lui, mais ces gens qui travaillaient pour lui, ils ne le connaissaient même pas. Parce que lui était au Beit Midrash en train d'étudier, il a hérité de son père d'argent et il a investi, c'est tout. La Gemara nous raconte qu'une fois, il y avait un de ses métayers qui travaillait dans le champ. Chaque soir, il y a quelqu'un qui volait du champ. Il avait dans la grange du blé et tout. Et chaque soir, il y a un voleur est venu, lui a volé. Alors, ce type de la grange, il a dit, bon, cette nuit-là, je vais dormir dans la grange. Si le voleur, il va venir, alors moi, j'en ai marre maintenant de ce type-là. Et qu'est-ce qui se passe? Rabbi Tarfon, il est passé, c'était son champ. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Tarfon? C'était son champ-là, il est venu. Il y a deux pshatim. Est-ce qu'il a mangé, il savait que c'est son champ, le champ à lui, ou est-ce qu'il savait pas que c'est à lui, mais l'autre, il a jeté, il avait des fruits jetés. Rabbi Tarfon, il a pris, il a mangé. Et après, il a côté de la grange, le type, le bétail était là, il est venu, il a vu Rabbi Tarfon la nuit, mais il n'a pas reconnu, mais il ne connaissait pas Rabbi Tarfon Bechlal. Il a préparé un grand sac, plaf, et il a mis Rabbi Tarfon dans le sac. Et il a fermé avec une corde. Il dit, ah, voilà, voleur, enfin, ça fait des semaines que je t'ai attendu, je te fais un piège maintenant, ça y est. Je te jette dans le fleuve, tu vas le payer. Qu'est-ce que c'est comme comportement? Et il est parti. Et Rabbi Tarfon est dedans, il entend le fleuve. Il passe sur le pont, il veut le jeter. Alors Rabbi Tarfon il dit, oh, pauvre Tarfon, à cause de cette erreur-là, tu vas quitter le monde. Alors l'autre, il entend parler, il dit, Tarfon, c'est quoi Tarfon? Il dit, Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, oui, Rabbi, puis le Rabbi Tarfon, vous êtes Rabbi Tarfon, vous vous moquez de moi? Il dit, je suis Rabbi Tarfon, je suis le patron de toi. L'autre, il entend ça, il ouvre le sac, et ce qui sort, Rabbi Tarfon, il sort, et l'autre, il demande, Mechila, il a expliqué qu'est-ce qui se passait, l'erreur, et l'autre, il demande Mechila, et la Gemara nous raconte que Rabbi Tarfon était malade, jusqu'à la fin de sa vie, il a fait des ta'aniot, il a pleuré, il se déchirait, mais qu'est-ce que je fais comme péché? Quel péché il a fait? Il a dit, je m'appelle Rabbi Tarfon, je suis le Chacham, et ne me jette pas. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire? S'il n'aurait pas dit qu'il est le Chacham, il lui dit, Stam, je suis Tarfon, monsieur Tarfon, peut-être l'autre n'aurait pas tenu compte. La Gouan a dit, non, mais Rabbi Tarfon était riche. Rabbi Tarfon aurait pu dire, écoute-moi, je te donne 100 000 euros et tu me jettes pas dans le fleuve. Et l'autre, il aurait accepté. Il aurait pu éviter de dire, je suis le Rabbi. Et il a mis le Chochmat Torah à côté. La Gemara nous raconte, Rabbi Tarfon, il s'en voulut, j'étais né, il dit vrai Torah. Quand un homme, il peut, pas né, mais dit vrai Torah. C'est, si on peut s'en passer, c'est beaucoup mieux. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Kol hamachabed et ha Torah, ufo mechubad al abriot. Chacun qui honore la Torah, son corps, sa personne, est honoré chez les gens. C'est quoi? Mechabed et ha Torah. Il donne l'honneur à la Torah. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donner de l'honneur. Comment tu donnes de l'honneur à la Torah? Tu la étudies, tu la respectes, tu parles bien d'elle, tu demandes aux gens de la respecter. Tu respectes les Sifrei Kodesh, tu respectes les Rabbanim, tu respectes ces mitzvot. Une mitzvah, tu la fais d'une façon belle. Tu achètes une oulav, tu fais une soukha, tu fais les tefillin. Tu respectes ce qui est marqué. Il y a beaucoup de choses. On apporte une Sefer Torah, il se lève devant la Sefer Torah. On apporte une Sefer Torah, on se lève devant la Sefer Torah. C'est du kavod. Tu achètes quelque chose, une mitzvah, on fait la mitzvah avec de l'honneur, comme quelque chose de respectueux. Mais chabed et ta Torah, tout ce que donne de l'honneur à la Torah, lui, il est là. Alors ça, c'est chabed et ta Torah. Les gens, ils respectent cet homme. Pourquoi? parce que la Torah mérite de l'honneur. Donc l'homme qui respecte la Torah, eh ben l'honneur de la Torah, elle va chez les gens automatiquement. Les gens veulent donner de l'honneur à la Torah. Et ceux qui respectent la Torah, les gens, ils lui donnent aussi de l'honneur. Il sera mechoubat chez les gens. On parle chez les gens bien, maintenant, Hasre Shalom, les gens qui connaissent pas la Torah, qui sont l'autre côté de la planète, ça c'est une autre chose, mais on parle des gens normaux, des juifs qui savent qu'est-ce que c'est la Torah. Le Chola Machalel est la Torah, et ceux qui profanent la Torah, on a déjà parlé avant, Chilul Hashem, ici, Mechalel, Chalal, la Torah est vide chez lui, un homme qui, pour lui, la Torah est vide. Ça lui dit rien. On passe par la Torah devant lui, je lève pas. C'est une façon de parler. Il y a mille et une possibilités. Là, ça lui dit rien. Il peut mépriser la Torah ou les gens de la Torah ou les gens qui étudient la Torah, les gens qui appliquent les mitzvot. Le Shabbat, ça lui dit rien. Mechalel, il profane. Il profane. C'est un cadavre, c'est un corps sans âme. La Torah est un corps sans âme. La religion, c'est un corps sans âme. Ça, c'est Mechalel et ta Torah. Et bien sûr, ça, mille et une genres d'expression. Et bien, ce qui est Mechalel et ta Torah, Gufo Mechoulal à la Briot. Et bien, les gens aussi, ils le remarquent. Tu n'en vaux rien. Tu ne respectes pas la Torah. Et bien, les gens ne le respectent non plus. Parce que la Torah donne de l'honneur. Et donc, si tu respectes pas la Torah, et bien, tu ne seras pas un homme respecté. Rabbi Ishmael ben Omer, Rabbi Ishmael son fils, c'est le fils de qui? De Rabbi Yossi. Alors il y a deux Rabbi Ishmael ici aujourd'hui. D'abord on a vu Rabbi Yochanan ben Broka et qui a un fils Rabbi Ishmael menant chez Rabbi Yochanan ben Broka. Maintenant nous avons eu Rabbi Yossi, dit Grammachabed Torah, et maintenant c'est Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi. Donc les deux Tanaïm, ils avaient des fils Ishmael. Tous se posent la question, pourquoi ils donnent le nom? Et Ishmaël au fils. Normalement, on donne le nom des gens bien. On ne donne pas le nom des gens bizarres. Alors, Tosot, il dit, Rabbi Notam, il dit, Ishmaël, il a fait Teshuvah la semaine de sa vie. Il a fait Teshuvah. Et alors, bon, il a fait Teshuvah. Donc, il est tzaddik, ou il est paracha, ou il est moitié, il est quoi? Non. C'est marqué, Vayasef el Amaf. Vayasef. El Amaf, il se fait ramasser vers son peuple. Et bien, c'est fait l'Amaf, on parle seulement chez les tzadikim, chez Abraham, chez Yitzhak, chez Yaakov, chez Ishmaël. Bien, c'est fait l'Amaf vers son peuple. Bon, il y a différentes sortes de peuples dans la Mabba. En tout cas, c'est fait l'Amaf chez les tzadikim. Ishmaël, il a fini sa vie comme tzadik, à tel point que les Tanaïm, des fois, on a déjà deuxième fois, on voit, qui donne le nom Ishmaël. On avait parlé avant Rabbi Ishmaël. Ben Elisha et Rabbi Ishmael, Rabbi Elazar, il y avait plein de Tanaïm qui s'appelaient Ishmael. C'est un nom courant aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un va appeler son fils Ishmael. Il va aller au cheder et il risque de. Et les copains ils vont le regarder à travers. Ce n'est pas la coutume aujourd'hui. Mais à l'époque de Tanaïm, qu'en irait que oui. Rabbi Ishmael Beno, c'est le fils de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi est un homme spécial. Il avait cinq enfants que Doléador. C'est le seul Tana qu'on trouve dans le chasse. Il y avait peut-être d'autres, mais dans le chasse, on ne trouve pas un Chacham, un Tana qui avait cinq enfants Tanaïm. Et Rabbi Yossi, il était zoché, c'est spécial. Rabbi Yossi, il était zoché. Rav Papa, il était zoché d'avoir 10 garçons Amoraïm, 10 enfants qui étaient considérés comme Amoraïm dans le chasse. Rav Papa, il avait 10. Et chez les Tanaïm, Rabbi Yossi. Et un, c'était Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi. C'est un copain de Rebbi. Il a aidé à Rebbi. Rebbi lui a aidé. Il était un peu le Rebbe, le chaver de Rebbe no Kadosh. Rabbi Ishmael ben Omer. Achosech atzmo min adin. Un homme qui se prive du jugement, qui se retire du jugement, qui s'empêche de faire un jugement, pour être memenu eiva, il se débarrasse de la haine, de gezel, il se débarrasse du vol, ou shuachav et de faux serments. Et ce qui est orgueilleux dans des jugements, dans des décisions halachiques, shoté, c'est un fou, racha, c'est un voyou, c'est un gonflé, c'est un orgueilleux. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Un homme qui se prive de din, à qui il parle? Il parle au Dayan ou est-ce qu'il parle aux deux personnes qui se disputent? En vérité, il y a deux pshatim ici. Première lecture, il parle au juge. Ça veut dire quoi? Il faut un juge dans la ville. Alors parfois, il y a plusieurs candidats. Plusieurs candidats. Pourquoi il candidate? Des fois, c'est parce que être juge, c'est un grand honneur d'être juge. Alors, il cherche cet honneur. Mais Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, il dit, si tu dis non, je ne veux pas être juge, tu gagnes quelque chose. Qu'est-ce que tu gagnes? Pour Ekmenu Eiva, tu gagnes quand on ne te déteste pas. L'honneur qu'un juge, il a, mais les gens, ils le détestent. Qui le déteste? Bien sûr, celui à qui il a condamné. Dans un jugement, tu donnes raison à un et donnes raison ou à l'autre. Ce qui est tort, il va te maudire. Pourquoi? Parce qu'il va dire, le juge n'a rien compris, c'est un corrompu, il n'a pas mis la tête dedans, et il a des intérêts, ou c'est un imbécile. C'est comme ça que les gens ils parlent des juges. Donc, chercher à être juge, mais tu cherches de la haine des gens. Et des fois, même les gens qui sortent gagnants aussi méprisent les juges. Arrête douche. Mais ici, José Hatzman Minadin, c'est pas seulement dans le sens, il va se retirer du juge. Ça veut dire quoi? Il va laisser quelqu'un d'autre juge. Laisse l'autre être le juge. Pourquoi tu as besoin d'être le juge? Mais il y a un autre pshat. On parle ici de quelqu'un qui est déjà juge. Mais quand deux personnes viennent, il y a une mitzvah, le fasher. Avant de faire un jugement, il faut toujours proposer aux gens, ne voulez pas vous arranger entre vous, ou je vous aide à vous arranger. Ça veut dire quoi? Regardez, vous dites comme ça, vous dites comme ça. Chacun a des arguments. Chacun dit, moi, il me revient tout l'argent, et l'autre, il dit, moi, il me revient tout l'argent. Et peut-être l'argent ne revient pas à 100% à vous, ou pas 100% à vous. Peut-être l'autre, il a un peu raison. Peut-être vous avez aussi un peu raison. Oui, c'est possible. Oui, bon, c'est vrai, il y a un peu raison, mais j'ai quand même raison. Mais vous êtes sûr? Oui. Non, mais attends, si je vous juge et je vous dis la halakha jusqu'au bout, peut-être vous allez recevoir tout. Ou peut-être vous allez perdre tout. Moi, je vais proposer entre vous, on va voir combien pour cent vous avez raison. Et peut-être c'est 50-50, ou peut-être c'est 80-20, peut-être 70-30. Il a aussi 30% raison, votre adversaire. Peut-être vous êtes d'accord de laisser 30% à l'autre. Et à l'autre, il dit, monsieur, en vérité, l'autre, il a plutôt raison. Si je vais aller jusqu'au bout, peut-être vous avez raison, peut-être vous allez recevoir tout. Mais peut-être vous allez perdre tout. Selon ce que je vois, on dirait plutôt, il y a 70% que l'autre, je donnerai raison, je lui donnerai tout. Moi, je vous propose, c'est une bonne affaire, laissez-lui 60%. Et prenez 30%. Vous risquez de perdre tout. Si l'autre dit non, je ne veux pas de pshara. Je veux vous juger les din Torah. Ou tout lui, ou tout moi. Mais vous risquez de perdre tout. Je veux comme ça. Dans ce cas-là, si le juge connaît les din de la Torah, après qu'il étudie, dans ce cas-là, un juge qui a appris l'étude, il peut arriver à la Torah, est obligé de se casser la tête jusqu'au bout. Après, donne raison à l'autre. C'est qui tout double. Mais c'est un grand travail pour arriver à la vraie décision. Et il y a une mitzvah de ne pas rentrer dedans. Parce que quand on va jusqu'au bout, un, il a raison, un, il a tort. Ce qui a perdu tout, il reste jamais risque d'être l'ennemi de l'autre. L'ennemi du juge, l'ennemi de l'autre, il sort fâché. C'est pas joli de sortir fâché. Mieux vaut un arrangement. Donc le juge, il doit favoriser. Faites un arrangement entre vous. Donnez de bon cœur, sans que la Torah vous oblige. Vous avez laissé à l'autre. Il a un peu raison, laissez-lui aussi. Si le juge y voit, c'est clair qu'il a raison, l'autre il a tort, il n'a pas le droit de proposer de faire un pshara. Vous avez raison, vous avez tort. Sauf s'il a peur que s'il lui donne tort à un, il ne va rien payer. Il n'a pas d'argent, il ne va pas payer de mauvaise foi. Dans ce cas-là, même si le juge il sait qu'un il a raison, l'autre il a tort, il peut proposer un pshara, il peut dire laissez la moitié à l'autre, sinon vous n'avez rien. Je lui dis en cachette, je connais l'autre, il est un mauvais payeur, il ne vous payera pas, on ne peut rien faire. dites, donnez-lui la matière, comme ça au moins vous avez la matière, sinon vous risquez d'avoir rien. Ça aussi on peut dire. Ou laissez-lui 20%. Ça aussi on peut proposer. Mais normalement, il y a une mitzvah que les gens, d'eux-mêmes, ils disent, bon, d'accord, un peu, je te lâche quand même, et favoriser une pshara. Ça, c'est la mitzvah les fachères. Ça aussi, c'est inclus dans la Mishnah. Celui qui se prive du din, qui dit aux gens, je ne voudrais pas vous juger, faites un arrangement pour Ekmeno Eiva, il se sauve de la haine vis-à-vis du juge et de la haine entre les deux. Les gens, ils sortent, ils vont voir à la Chaïm, ils vont s'embrasser. D'accord, j'ai perdu la moitié de cette affaire, mais j'ai gagné la moitié de l'affaire. Il n'est pas entièrement décent, on se disputait sur 100 000 euros. À la fin, il a 50 000, j'aurais voulu avoir 100 000, mais au moins j'ai 50 000. Mais si tu fais le jugement, peut-être il n'a rien du tout. Là, il est amer s'il n'a rien du tout. Donc, ça, c'est donc un enseignement pour le juge. Et c'est aussi un enseignement pour les deux antagonistes. À José Minadine, ça veut dire, si tu disputes avec quelqu'un, tu viens chez le juge, il dit, peut-être vous faites un compromis. Le Tanne nous dit, faites un compromis, c'est beaucoup mieux. Et même chez le Goïm Lahavdil, l'on dit, le pire des compromis, les pires des arrangements, il est mieux qu'un bon procès. C'est comme l'histoire de La Fontaine, l'histoire. Quand un homme il veut aller jusqu'au bout dans le jugement, il a besoin des avocats et des avocats et des avocats. Et à la fin, les avocats, ils prendront tellement beaucoup d'argent que même si à la fin il gagne, il a tout perdu. Et s'il perd, il a doublement perdu. Et là, souvent, la gaava des gens les empêche de faire un compromis. Arrangez-vous entre eux. Prenez un juge qui ne juge pas le rôle du juge, mais un rôle est de faire un compromis. C'est ce qui est logique. Et faites un compromis. Il n'y a pas mieux qu'un compromis. Dans tout, il n'y a pas mieux qu'un compromis. Le jugement, non. C'est des gens qui sont têtus, qui sont orgueilleux. Ils veulent aller jusqu'au bout. Et, mais c'est qui tout double. Donc le Tanakh, il déconseille. Rabbi Shmuel, il déconseille. À José Hatzmonidine, aussi au juge. Là, il ne faut pas se nommer juge, laisser un autre. Sauf si l'autre, il est tordu. Ça, c'est dans le Rambam. Si dans la ville, le seul qui est capable d'être jugé, il les connaît, c'est un, tous les autres, c'est des rigolos. Et les gens, ils demandent, mais vous êtes obligé d'être le juge. Acceptez la place, parce que sinon, c'est tordu. Dans ce cas-là, si le peuple et les Chachamim, ils disent, oui, vous devez être le chef, dans ce cas-là, il ne faut pas refuser. Dans ce cas-là, on peut accepter. Mais s'il y a un autre qui est autant bien que lui, alors laisse l'autre. Ça, c'est José Hatzmo. Et même quand tu es nommé juge, essaye de pas faire le jugement, de faire une pshara. À ce Hatzmo Menadine, pour être Memeno Eiva, il se débarrasse de la haine, Vegezel. Il se débarrasse du vol. Pourquoi du vol? Parce que si tu es obligé de juger et tu juges, lui, il a raison, lui, il a tort. Si le juge, il se trompe, donc le juge, il est voleur et ceux qui ont pris l'argent injustement, il est voleur. Mais si tu fais une pshara, vous vous arrangez. Donc, toi, tu dis, si tout l'argent vient chez moi, revient à moi, mais je te donne la moitié, je suis de Mochel, je te pardonne. Et l'autre dit la même chose. Quand on fait une pshara, chacun, il dit, le juge, il dit aux gens, dites, et si Alpidine, je devrais recevoir tout, je te laisse une partie de plein gré. Et toi aussi, dis la même chose. Dans ce cas-là, il n'y a pas de vol parce qu'il était d'accord. Ou Shvuat. Et le faux serment, c'est quand on fait un jugement, des fois, il faut faire juger les gens. Aujourd'hui, on ne laisse pas jurer les gens. Aujourd'hui, Rahman Aslan, si on fait jurer les gens, aujourd'hui, avec les Ratsimam qui existent, quand l'argent est en jeu, et les Ratsimam est en jeu, alors on ne demande pas de jurer. Il peut prononcer le nom de Dieu pour son argent. Alors on ne laisse pas jurer. Mais à l'époque de la Gemara, les gens, ils tremblaient devant jurer. Jurer faux, ça, les gens, ils tremblaient. Alors, on faisait jurer, mais des fois, il y a des gens qui juraient comme un fou. Et donc, le juge, il n'a pas fait de pshara. Si on fait un pshara, on n'a pas besoin de jurer. Soit mouchel le serment. Et on peut aussi racheter, dans la Gemara, il est marqué, on peut racheter la chevoie. Un homme, on lui a donné un objet à garder. Alors, voilà, je vous donne quelque chose à garder, je vous donne 10 000 euros. Je vous dépose chez vous, vous me rendez dans un mois. Après un mois, il vient, monsieur, c'était volé. Volé? Ah, tu as oublié de fermer la porte à clé. Ah non, 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 je l'ai fermé la porte à clé. Tu as fermé la porte à clé? Oui. Et peut-être tu n'as pas fermé la porte à clé. Et comme ça, le voleur, il est rentré. Donc, tu as fait une pchia, tu es obligé de payer. Oh non, 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 je vous assure que j'ai payé. C'est sûr que vous avez fermé la porte à clé? Oui. Vous êtes prêt à le jurer devant le betting que vous avez fermé la porte à clé? Jurer. Oui, je veux que vous jurez devant Dieu que vous avez fermé la porte à clé. Je préfère ne pas jurer. Alors payez-moi, mais je vous assure que j'ai fermé. Non, si tu jures pas, tu me payes. C'est comme ça la halakha. C'est où jurer payer. Alors l'autre, il dit, écoutez-moi, si vous m'obligez de jurer, je jure, mais je préfère que vous m'obligez pas. Mais ça marche pas. Alors il y a une halakha dans la Gemara, il peut proposer d'argent. Il dit, vous savez quoi? Je vous rends la moitié et laissez-moi. Je voudrais pas jurer, je vous rends la moitié. Si vous m'obligez de jurer, je jure, vous aurez rien. Je vous propose la moitié et je suis pas obligé de jurer. Alors, l'autre peut dire, d'accord, donnez-moi la moitié, ne jurez pas. On peut racheter une chevoie. Un homme qui a peur de jurer, parce que je suis sûr que j'ai fermé, mais je ne suis pas 100% sûr. Il me semble que je lui jure. Il me semble que oui, mais je suis comme, mais j'ai peur de jurer. Je lui paye pour qu'il me pardonne que je ne jure pas. Maintenant, si l'autre dit, non, je ne veux pas d'argent, je veux que vous jurez ou vous payez tout. Alors, c'est nous qui tout double. Peut-être l'autre, il va jurer, il n'aura rien. Peut-être il va pas jurer, il va payer tout. On peut s'arranger. Ne jurez pas et payez-moi. On est risqué aussi, on utilise ce système-là de ne pas jurer et payer. Alors, la gas libo behora'a. Et ce qui est orgueilleux dans le jugement, c'est quoi il est orgueilleux? Il dit les choses facilement. Il réfléchit pas trop. Il est trop sûr. Depuis le début, il dit, je sais, moi je sais. Sans se casser trop la tête, je sais. Et après, il y a un deuxième agas libo. Qu'on lui dit, mais monsieur, vous avez jugé un petit peu trop vite. Il n'y a pas une question pour ceux qui disent, ah non, j'ai raison. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il veut plus remettre en question ce qu'il dit. Ah non, j'ai raison. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Il veut pas avouer qu'il a parlé trop vite. Il veut pas avouer qu'il a avoué, qu'il a se trompé. Et quand on lui montre un halakha sur un aurore, il tourne les gens bourrés, que non, ça n'a pas de rapport. Il fait un chokhma pour embrouiller les gens. Gasli bobohora. Ah, il, comme ça, il dit, il connaît la halakha sans mettre la tête dedans, sans craindre de se tromper. Choté, c'est un fou. Il comprend pas le sérieux. C'est quoi? Permis ou interdit, c'est la même chose. L'argent est à Rouven, l'argent est à Shimon. 100 000 euros à Rouven, 100 000 euros à Shimon. Quoi, tu prends ça à la légère? Mais la carrière de l'autre, 100 000 euros. Lui, il a be mais chacun, il a besoin. Lui, il a besoin de marier sa fille. L'autre a besoin de marier son garçon. Il a 1 000 choses. Sa femme est malade. Il veut faire une parnassa. C'est son argent. Tu joues comme ça sur 100 000 euros de l'autre. Choté, c'est un fou. Rachat, c'est un voyou. Parce qu'il peut permettre ce qui est interdit, il peut interdire ce qui est permis, il peut priver un homme de son argent, c'est un voleur, c'est un rachat, mais Gassarouar, c'est un type gonflé. Ah non, moi je ne me trompe pas, moi je sais, c'est comme ça, allez-y. Donc Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi aussi, il est très circonspect au niveau d'être, devenir juge. Et si tu es juge, il faut être un juge très sérieux et bien, bien réfléchir avant qu'on fasse un psak. Ou à Omer, lui-même, il disait encore quelque chose. Al-Tihidan Yechidi, ne juge pas les gens tout seul. Fais, si tu es déjà juge, juge à trois, ne juge pas seul. Il n'y a qu'un, que pour eux, lui, c'est bien de juger seul, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, ne juge pas seul? On n'a pas le droit de juger seul, on a le droit. Ça veut dire quoi? Juger. Alors, il y a deux catégories de juges. Il y a les juges à l'époque de la Gemara qui avaient des mumchés. Mumchés, ça veut dire qu'il a reçu le diplôme d'un grand chacham. Et un mumchés, il peut obliger les gens de juger. Si deux personnes se disputent, il y en a un qui vient chez le juge, il dit, Monsieur le juge, j'ai un différend avec lui. Je vous demande intervenir et dites qui a raison. Alors, un dayan mumchés seul, alpidine, il peut inviter l'autre, venez, monsieur, oui. Je suis juge, je suis diplômé de juger. Votre, il réclame l'argent chez vous. Dites ce que vous avez à dire. Lui, il dit ce qu'il a à dire et je vous juge et je condamne ce que je condamne. La halakha, il dit que les deux sont obligés de se soumettre. Il peut pas dire, non, je me laisse pas juger. Un dayan mumchés peut obliger, de même qu'un, il a appelé secours, l'autre, il est obligé de venir. Mais si c'est pas un Dayan Mumché, il y a des gens qui connaissent, ils ont le droit, les gens jugent halakhiquement, ils ont le droit de juger contre le gré de quelqu'un s'ils sont trois. Un homme, il vient chez trois personnes, il dit, j'ai un différend avec M. Plony Plony. Appelez-le, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Vous avez un différend avec lui? Oui, monsieur. Monsieur, les trois, j'ai un différend. Eh bien, on va vous juger. Ah non, je veux pas. Non, ça n'existe pas, je veux pas. Vous allez écouter, on va vous juger, vous voulez ou vous voulez pas. Et si on va vous condamner, vous allez obligé de payer, c'est comme ça la halakha. Mais ça, c'est chez des dayanim. Ben, Alpidine, c'est comme ça. Mais le maasé, on n'a pas la coutume de faire ça. On a la coutume de le laisser choisir le juge. On fait zé borer lo echad, zé borer lo echad. J'naim borim lo echad. Que quand il y a un différent, un, il dit à l'autre, viens au bedin. Je veux pas venir. Ah, t'es obligé de venir. Mais quel bedin? Le bedin qui me plaît. Mais il faut aussi le bedin qui me plaît à moi. Toi, tu me plais pas, ton Dayan ne me plaît pas à moi. Alors chacun choisit un. Vas-y, choisis un Dayan. Moi, je choisis un Dayan. Et ensemble, on choisit un troisième ou les deux Dayanim choisissent un troisième. Et après, les deux, ils disent, bon, on est d'accord que vous nous jugez. Avant le bedin, ils acceptent, on accepte votre psak. Et dans ce cas-là, les juges, ils ont jugé. Ils sont obligés d'accepter. Ils sont obligés de payer. S'ils ne payent pas, c'est un pur voleur. On peut appeler la police, etc. Alors, donc, un Dayan Moumre peut juger tout seul. Et sur celui-là, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, il dit, c'est pas bien de le faire. Même si c'est le justification, juge juridiquement, tu peux juger seul, ne le fais pas seul. Laisse-toi toujours accompagner par deux. Pourquoi? Parce qu'un homme, il est sujet à se tromper. Quand il y en a deux à côté de lui, c'est plus facile à trouver la vérité. C'est la suite de ce qu'il dit à Gasli. Un homme, il est trop sûr de lui, de ne pas se tromper. Il peut, oui, se tromper. C'est pour ça, ne juge pas tout seul, laisse-toi accompagner par deux. Quand il y en a trois, il y en a un qui joue le rôle de l'un, un il joue le rôle de l'autre. Ça veut dire, un, il dit, je vais essayer de défendre son point de vue. L'autre, il dit, moi, je vais essayer de défendre le point de vue, honnêtement. Et le truc au milieu, il écoute les deux. Et après, les trois, ils décident. Et qui, les trois? S'ils se mettent d'accord, c'est bon. Et s'ils se mettent pas d'accord, les trois? Alors, dans ce cas-là, on fait d'après la majorité. C'est pour ça qu'on prend toujours des juges impairs. On peut faire un jugement de trois ou cinq ou sept ou onze. Il y a mieux de faire sept juges que trois, parce qu'il y a sept avis. Et s'il y en a sept, trois, ils disent comme ça, quatre, ils disent comme ça, on fait la majorité. Val tomar kabloudati. Un homme ne doit pas dire, il faut que vous acceptez ce que j'ai dit, un contre deux. Et là, il dit, mais moi, j'ai raison. Annulez votre date et faites-moi confiance. Les gens, ils disent, non, on ne vous fait pas confiance. Nous pensons autrement. Et bien, tu ne peux pas les obliger, même si c'est toi le Dayan Moubré, que tu as invité les deux autres venir. Et tu peux dire, j'aurais pu juger sans vous. Mais maintenant que tu les as appelés, tu es obligé de tenir compte de ce qu'ils disent. Et c'est un contre deux, et le c'est deux. Altoma Kabloudati, tu ne peux pas dire aux deux, acceptez mon avis. Shein le pouvoir est à eux. Eux, ils sont deux. C'est leur pouvoir. Veloata, c'est pas toi. Ceux qui peuvent juger seul, c'est Akadej Borou. Et même Akadej Borou, il ne juge pas toujours seul. Ça marque aussi, il fait un bedin. Même Akadej Borou, il peut juger seul. Même lui, il utilise un bedin qui est composé par des malachim, par des tzadikim. Mais il veut aussi entendre ce que les humains, ils disent. Il veut pas juger que celui, il peut juger seul, mais même lui, il utilise un bedin. À demain, Bezrat Hashem.